Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM et merci d'être à l'écoute de l'émission Regard sur le passé proposée par le service patrimoine. Aujourd'hui avec vous, Pascal, pour vous raconter un peu comment vivaient nos arrière-arrière-grands-parents à l'Île-Dieu au début du 19e siècle. Mardi dernier, nous avons laissé Bachelot de la Pilée, naturaliste fantasque, quittant l'Île-Dieu en 1832. Mais quelle est donc cette île qu'il quitte avec tant de ressentiment à l'égard d'une population qui n'a pas compris son génie? Si tout au long du XVIIIe siècle, les témoignages des curés en charge de la paroisse de Saint-Sauveur nous ont livré des informations précieuses sur la vie à l'Île-Dieu, en ce qui concerne le XIXe siècle, les sources les plus nombreuses et les plus détaillées dont nous disposons sont les mémoires et projets préalables à la construction du fort de Pierre-Levé. Ils sont rédigés par les militaires du génie, dépêchés sur l'île par la direction des fortifications, dans le but de mettre l'île en état de défense. Leurs nombreux rapports nous donnent une idée assez précise de la situation de l'Île-Dieu au début du XIXe siècle. Tous décrivent un petit territoire isolé, éloigné du continent, avec lequel la liaison est plus qu'irrégulière. Une île pauvre, peu peuplée, peu cultivée, dépourvue d'arbres. Un pauvre pays, en somme, qui manque cruellement de ressources depuis que le cabotage, miné par les guerres maritimes et de l'Empire et la présence quasi continuelle des corsaires anglais sur nos côtes, n'est plus que le souvenir de ce qu'il a été. Au cours des siècles précédents, la population de l'Île-Dieu a subi d'assez grandes variations. Mais en 1803, époque de son occupation militaire, elle compte à peine 1900 âmes. C'est une population à la fois maritime et paysanne qui s'accommode comme elle peut de ce que l'île lui propose et des vicissitudes de son temps. La population masculine, 700 à 800 hommes, y est majoritairement composée de marins, 500 environ, qui pratiquent encore principalement le petit cabotage, des marins expérimentés, pouvant servir de pilotes. Arrêtons-nous un moment sur cette activité de cabotage. Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Lorient, Brest et Rochefort sont alors de grands ports de commerce, et la Loire un axe essentiel de communication. Depuis le XVIIe siècle, la saison de cabotage commence au début de l'automne, au moment des foires de Bordeaux. À partir de ce port, les bateaux chargés de barriques de vin appareillent vers les ports de Bretagne, remontant parfois même jusqu'en Manche ou en mer du Nord. Ils reviennent chargés de sel, de beurre ou d'étoiles de Bretagne et effectuent parfois plusieurs fois l'aller-retour entre Bordeaux et Nantes au cours de la saison. Sur l'île, cette activité constitue le complément idéal d'une pêche traditionnelle pratiquée depuis le Moyen-Âge. De nombreux marins embarqués au cabotage interrompent en effet leur activité à partir de mai ou juin pour aller traquer le thon dans le golfe de Gascogne et jusque sur les côtes espagnoles. Et puis, ils repartent, à partir d'octobre, au cabotage. À Port-Breton, au début du XIXe siècle, les caboteurs débarquent le vin, le sel, le son, le blé, les marchandises les plus diverses, ainsi que les matériaux nécessaires à la vie courante. La chaux, la tourbe, le chanvre et surtout le bois qui manque cruellement. Sur l'île, en effet, on ne trouve pas le moindre bosquet d'arbres. Pour leurs besoins en combustible, les habitants récoltent l'ajonc qui pousse sur des terrains vagues, les chirons, ou encore les goémons, des varechs siliqueux et à vessie cueillis sur les rochers, puis séchés au soleil. On fabrique aussi des tourteaux de fumier séché, les bousas, avec de la bouse mélangée avec un peu de paille. L'île, comme tant d'autres, ne vit guère que des apports du dehors. Il faut dire qu'à part au fond de quelques vallons, la terre insulaire est rare et médiocrement fertile. Le rocher affleure souvent. Au début du XIXe siècle, environ un tiers du sol est mis en culture. ce qui ne suffit pas pour garantir l'autosuffisance alimentaire de la population sur l'année. Le reste des terres, les landes de l'ouest de l'île notamment, sert de pâture aux bêtes, dont l'élevage principal est celui des brebis. Elles représentent 4 à 5 000 têtes selon les années et selon les épizooties. L'île, par ailleurs, n'abrite que peu de prairies. Le foin manque et il est réservé aux bœufs, si utile pour les labours, ce qui entrave le développement de l'élevage autre que celui des ovins. On y cultive des céréales, mais pas en quantité suffisante, et souvent, à Port-Breton, on attend avec impatience la livraison du grain. Fort heureusement, l'estran recèle une source de nourriture non négligeable, crustacés, mais aussi coquillages. Et parmi eux, les fameuses patelles, les berniques, les jambes, qui ont dû sauver quelques-uns de nos ancêtres de la disette. Après la rupture de la paix d'Amiens par l'Angleterre en 1803, Napoléon Ier décide de mettre en état la défense des côtes et des îles de l'Empire. Dans ce mouvement général, ordre est donné de fortifier l'île-Dieu et d'y implanter une garnison. L'île a peu d'importance pour elle-même, elle n'est pas essentielle stratégiquement, mais son port est un refuge pour les navires en haute mer. Et si l'on souhaite protéger le peu de cabotage qui existe encore sur la côte atlantique, l'île-Dieu, sentinelle sur la frontière maritime, ne doit plus à l'avenir pouvoir servir de port de relâche et de ravitaillement à l'ennemi. Port-Breton doit être défendu. Cette préoccupation guerrière va avoir pour notre territoire des retombées aussi inattendues qu'intéressantes. En effet, la présence d'une garnison importante en poste sur l'île va relancer l'activité économique. En premier lieu, les constructions en fortifications et en bâtiments que nécessite l'installation des soldats, organisation des batteries de côte, logements, magasins, hôpital, donnent du travail aux artisans locaux et amènent sur l'île une population nouvelle constituée d'ouvriers spécialisés. C'est que sur le plateau de Pierre-Levé, on établit divers ouvrages de campagne, une espèce de camp retranché. Mais l'occupation militaire va aussi conduire à l'amélioration et à l'extension de la mise en culture de l'île, notamment par l'introduction et le développement de la culture de pommes de terre. La présence des militaires qui louent leurs bras pour défricher et mettre en culture des champs autrefois délaissés, faute d'hommes valides en quantité suffisante sur l'île, la plantation de tubercules qui viennent bien dans le sol insulaire, va en une vingtaine d'années améliorer l'ordinaire des habitants. En 1825, les rapports militaires nous indiquent que les trois quarts des terres cultivables sont maintenant exploitées et que les rendements permettent de subvenir à la consommation des habitants. Le pays produit du grain, des légumes, des fruits et des bestiaux. Et depuis que la paix est revenue en 1814, sur l'espace maritime libéré, l'activité reprend. Une vingtaine de bateaux de pêche côtière, montés de 3 à 4 hommes, assurent à la belle saison le ravitaillement local en poissons frais. Les pêcheurs en font sécher une partie, qu'ils conservent pour l'hiver. Le thon, pêché de juillet à septembre, est quant à lui destiné aux ports continentaux. Voici ce que M. Cavolo, ancien secrétaire général de la préfecture, chargé de la statistique de la Vendée, publiée en 1844, nous dit de cette pêche. En temps de paix, une vingtaine de barques, dont chacune est montée par 5 ou 6 hommes, partent de l'île-Dieu vers le milieu du mois de juin pour aller sur les côtes d'Espagne faire la pêche du thon, que l'on nomme vulgairement germon. Elles tiennent la mer jusqu'au mois d'octobre, où ce poisson abandonne la côte occidentale pour entrer dans la Manche. Comme le thon se conserve assez longtemps frais et qu'il n'a plus la même qualité lorsqu'il est salé, aussitôt qu'une barque en a pêché 10 ou 12 douzaines, l'équipage vient les vendre au sable ou à l'île de Ré, où la douzaine se vend quelquefois 60 francs. La barque retourne ensuite continuer sa pêche. Cette période d'accalmie, avec la reprise des activités maritimes, profite à la population de l'île qui augmente régulièrement. En 1825, le chef de bataillon du génie Chéniaud dénombre 2100 individus qui occupent environ 830 maisons réparties dans 21 villages ou hameaux. Il note également que la population s'est concentrée sur Port-Breton, qui abrite près de la moitié des habitants. 7 ans plus tard, le recensement de 1832 liste 2169 habitants. Cet effectif ne cessera de croître tout au long du XIXe siècle. Dès l'arrivée de la garnison, le commandement militaire a choisi le bureau de la poste de Saint-Gilles pour acheminer le courrier officiel. La municipalité a alors abandonné le service des postes confié à un particulier entre l'île et le port de la Gézière, situé entre Fromentine et Beauvoir, et le service postal maritime civil profite désormais de la liaison militaire assurée entre l'île-Dieu et Saint-Gilles-sur-Vie. Mais la liaison avec le continent est encore très chaotique. Elle est souvent interrompue pendant plusieurs jours, voire des semaines, en raison des intempéries ou des avaries. Le bateau-poste se fait parfois attendre, l'hiver, un mois entier. Pourtant, malgré les aléas dus à son éloignement de la Grande Terre, l'île-Dieu est en cette première moitié du XIXe siècle à la veille de progrès qui vont profondément bouleverser un petit monde encore tout imprégné de l'Ancien Régime. De grandes réalisations, de grands projets sont en cours qui ne vont pas tarder à voir le jour. Le phare, tout d'abord. Les marins réclamaient son édification depuis longtemps. Les naufrages étaient fréquents le long de nos côtes. Cela est à présent chose faite. On vient d'édifier de 1829 à 1830, sur le tertre de la Petite Foule, sur la côte nord-ouest de l'île, une tour de 37 mètres de haut, soit 54 mètres au-dessus du niveau des hautes mers. Un grand phare. Au moment du séjour de la Pilée à l'île-Dieu, il est flambant neuf et constitue une véritable attraction. En ce qui concerne le fort, des projets sont en cours, mais n'ont pas encore abouti. Et le port, me direz-vous ? Pour le port comme pour le fort, des projets ont été rédigés. Dès le début du XIXe siècle, M. Teuler, ingénieur en chef des travaux maritimes du port de Rochefort, auteur de plusieurs rapports sur les travaux de restauration et d'aménagement du clocher de l'église de Saint-Sauveur, qui servait alors de vigie, a alerté le gouvernement sur la vétusté des aménagements de Port-Breton. Dans un rapport de 1803, il expose l'ensemble des améliorations dont ce port devrait faire l'objet et prie dès cette époque l'ingénieur général du génie de Paris de prendre ses propositions en considération. Plus tard, il énonce même la possibilité de renoncer à Port-Breton et de créer un vaste établissement maritime près de la pointe Gautier. Mais comme souvent, beaucoup de temps s'écoule entre les projets et leur réalisation. En 1832, lorsque La Pilée quitte l'île-Dieu, Port-Breton n'est encore qu'un petit havre d'échouage, un petit port de marée fermé par des jetées en mauvais état et qui n'a point de rade. Une crique à 3 entrées, délimitée par les rochers. Voici la description qu'en donne le capitaine du génie d'Enfer Rochereau juste avant le début des travaux qui vont transformer le port. Les rochers existants en ce point forment un abri naturel dont les pêcheurs de l'île ont dû profiter en tout temps. Le plus ancien ouvrage de ce port est une chaussée courbe en pierre sèche posée de champs s'élevant à peine au-dessus de la mer. Cette digue toute informe qu'elle est, a bien résisté aux coups de mer et on a dû devoir la conserver même après l'établissement de la jetée appelée le Grand Quai, qui lui est presque parallèle et qui, par son profil et son mode de construction, présente plus de solidité et est mieux appropriée au service de navigation. Elle est destinée, comme la première, à préserver le port des coups de vent du côté nord. Une autre jetée, sur la droite du port, désignée sous le nom de Vieux Quai, paraît avoir été construite antérieurement au Grand Quai pour s'opposer aux ressacs produits par les vents d'Est. Tels sont les seuls ouvrages d'art qui constituent le port breton lorsqu'en 1834, le service des ponts et chaussées lance le chantier destiné à son amélioration. Pour compléter cette description, écoutons à nouveau Cavolo. Ce port, d'une concavité semi-circulaire, peut recevoir jusqu'à 200 bâtiments de 150 à 200 tonneaux et beaucoup plus d'une moindre capacité. Notons au passage qu'un bâtiment de 200 tonneaux représente un bateau d'environ 27-28 mètres, soit un bateau de la taille des unités de la compagnie vendéenne aujourd'hui. C'est un port à marée, nous dit Cavolo, c'est-à-dire que la mer occupe et abandonne deux fois par jour. Cet inconvénient lui est commun à tous ceux de la côte, mais il a cet avantage particulier que comme la mer n'y éprouve aucun courant sensible, on peut y entrer à toutes les heures du jour et de la nuit, ou du moins aborder à son entrée et y échouer, sous la protection d'un vaste rocher qui forme comme un avant-port où les navires attendent en sûreté l'heure de la pleine mer. En face, et sur le plan de ce port, s'élèvent au nombre de 360 les maisons du principal établissement de l'île, nommé le port breton. Ces maisons, parties à rez-de-chaussée, parties à un étage, sont distribuées en rues assez régulières. Elles sont la plupart bien éclairées, soigneusement crépies et d'une propreté recherchée dans l'intérieur. Et oui, 30 ans se sont écoulés depuis les propositions de l'ingénieur Teuler. Port breton a augmenté d'importance. Malgré ses imperfections nombreuses, il est un précieux refuge pour les caboteurs et les pêcheurs qui fréquentent le golfe de Gascogne. Et puis, une petite ville s'est bâtie autour de la crique. L'idée de créer un autre port, plus à l'est, près de la pointe Gautier, est finalement abandonnée. J'espère que ce portrait de notre île dans la première partie du XIXe siècle vous aura plu et je vous invite à continuer le voyage dans le temps la semaine prochaine, pour vous raconter les travaux qui, dans la deuxième partie du XIXe siècle, ont fait du port de l'Île-Dieu un abri sûr et le centre des activités économiques. Je vous souhaite une belle fin de journée.